Amis de Radio Occitanie et de la poésie, bonjour, les poètes, une émission de Claude Bretin et Christian Saint-Paul. Des événements importants à Toulouse cette semaine, et en particulier le samedi 19 novembre, le Salon de la Poésie à Selle, S-E-I-L-H, petite commune aux environs de Toulouse. Petite commune qui s'appelle actuellement Seille en poésie, parce que cette commune était la commune de résidence de Michel Baglin. Michel Baglin, donc, qui sera au centre de ce salon de la poésie qui se tiendra donc dans sa ville, qu'il aimait tant, sa ville de Seille, et pour lesquels tous ses amis viendront lui rendre hommage, et ses amis poètes, bien sûr, et présenteront leurs ouvrages au public. Tout cela pour une journée entière, donc samedi 19 novembre, dans la ville de Seille, vous le trouverez facilement. Voilà. Alors, nous allons consacrer essentiellement cette émission au souvenir de Michel Baglin. On aurait pu, tout simplement, nous avons réalisé combien d'émissions avec lui depuis 1983 que nous tenons cette rubrique de poésie ici à Radio Occitanie, et puis sur les autres radios aussi avant 1983 où il était toujours notre invité chéri. Michel Baglin, nous allons débuter cette émission par écouter Martine Kaplan. Je vous ai dit combien l'interprétation des poèmes par la mise en musique et l'interprétation des poèmes par Martine Kaplan me semblait être la perfection de ce que l'on pouvait attendre, nous les poètes, d'une mise en musique et d'une mise en chanson. Donc nous allons écouter Martine Kaplan qui chante Michel Baglin. Deux morceaux, à la suite.
Ordinaire, emprisonné entre la mer et la putain, entre le rire et la méprise, entre le tank et la poupée, au lieu commun de la bêtise, chacun venant s'y abîmer. Je crois en toi comme en l'émeute, ouvrant la brèche à l'impossible, comme au délire qui ramote les soleils noirs de l'indicible. Ta poésie me fait errant en ton amour, je suis dérive, je crois en toi comme un enfant croit en ses jeux qui lui survivent. Je crois en toi comme un enfant croit en ces jeux qui lui survivent. J'écris pour rendre enfin à tous ceux qui l'ont fait, à ces jeux gouvernés, à ce ghetto d'espoir, un vieux gamin fantoche, idiot et dérisoire, le fantôme entêté d'un clown insatisfait. J'écris pour tenir tête au silence établi, pour allumer des mots éteints par l'habitude et les garder vivants face à cette hébétude qui pétrifie le cœur et qui nous désunit. J'écris pour mieux aimer, poème aux mains tendues. J'invite chacun au creux de sa mémoire à raviver sa soif pour lui donner à boire à la source ameutée des sensations perdues. J'écris pour demeurer devant la porte ouverte et renaître nomade en sachant discerner en tout feu une escale, en tout lieu un sentier, et en chaque être ému une parole offerte. J'écris pour tenir tête au silence établi.
C'était Martine Kaplan et nous allons poursuivre avec toujours un poème de Michel Baglin.
Tu es une grande plaine parcourue de chevaux, un port de mer tout entouré de myosotis, et la rivière où le nageur descend à la poursuite de son image. L'algue marine et la plante sauvage comme l'arnica. Tu es pleine de poissons dans ta chevelure. Tu es une belle figure, plus belle que toi-même. Tu es celle que j'aime davantage que le pain et davantage que mes mains. Étendue sur chaque versant des collines, la petite voisine du trèfle et la compagne du lézard. Tu t'ensoleilles sur les pierres et tu es toujours sur ma joue. Si je pense à ta voix, je pense au monastère. À 9h du soir, quand les voix se répondent, à ta bouche, il me vient à la bouche ce goût de lait, de fruits, de feuilles traversées par les tendres ruisseaux de sève végétale. Et si je pense à toi, c'est qu'il faut bien choisir entre avenir et souvenir.
petite méprise, notre CD, notre lecteur de CD n'a pas voulu lire ce que nous lui demandions, est allé donc à un autre morceau de ce CD, et vous avez entendu « Toi », donc toujours par Martine Kaplan, mais c'est un poème de René Guy Cadou. Voilà. Donc Michel Baglin, nous en reparlerons dans quelques instants. Une journée donc qui va être importante, qui est importante, c'est celle de la journée Les Mondes de José Cabanis, le colloque 2022 de l'Académie des Jeux Floraux, qui organise donc toute cette journée sur José Cabanis. Ça commence ce jour-là, donc le jeudi 18 novembre à 9h30, et ça finit à 17h. Je vous invite à vous rendre, dès que vous le pouvez, à ce colloque, qui est entièrement gratuit, dont le était gratuit, et qui est vraiment qui affiche un aéropage d'intervenants de très haute qualité. Donc pour parler de José Cabanis qui a marqué durablement la ville de Toulouse, d'abord avec son prix pour la bataille de Toulouse, et ensuite pour l'ensemble de son œuvre, et il est bien que notre grosse bibliothèque porte son nom, bibliothèque José Cabanis. Alors, je voudrais simplement lire quelques mots quand même de José Cabanis, hein, nous en reparlerons peut-être si un des intervenants veut bien venir ici à la radio nous parler de l'œuvre de José Cabanis. Je voudrais vous lire simplement quelques extraits. Alors j'ai choisi un vieux livre et je me suis aperçu que c'est l'Escaladieu, c'est un journal, l'Escaladieu, c'est le journal de 1947 à 1953. Et j'ai lu très exactement ce livre en ce qui me concerne en février 1995, puisqu'à l'époque je notais les dates de mes fins de lecture. Alors, qu'est-ce que dit ce livre qui m'avait pas mal marqué, hein? Voici ce que nous indique la quatrième de couverture. Il n'est pas vrai que la chair soit triste, ce sont les plaisirs honnêtes qui deviennent tristes auprès des plaisirs de l'amour. Telle est la première phrase du premier texte écrit par un jeune écrivain dans les années 50. Et déjà, nous y reconnaissons la voix de José Cabanis. Alors, maintenant, cette phrase peut paraître un peu anodine, mais dans les années 50, il fallait une sacrée audace pour écrire ça. Comme dans Les Profondes Années et dans Petit Entracte à la guerre, José Cabanis relit un fragment de journal qu'il tenait dans sa jeunesse pour sauver des moments, des émotions et des lectures qu'il avait touchées. L'homme d'aujourd'hui est-il si différent du jeune homme d'hier? De l'inquiétude à la paix, l'auteur parcourt de nouveau son chemin. Il y a des constantes, l'amour des lettres et celui de la famille. Et un étrange parcours, celui du sentiment religieux. Alors, ce sentiment religieux, c'est ce qui explique le titre, l'Escaladieu. Le livre, l'Escaladieu, donc, s'achève sur l'année 53, qui est celle de la mort d'un père, qu'aujourd'hui, comme alors, l'auteur appelle « Mon meilleur ami ». Évidemment, ce livre devrait maintenant se conjuguer au passé, puisque lorsque ce livre a paru, c'était, je crois, 1987. Voilà. Alors, je vais lire deux choses. D'abord, ceci, où il dit, à un moment donné, « Je suis là de ce carnet », donc c'est en 85, donc décembre 85, « Je n'y parle tant de mes lectures que parce qu'il n'y a rien dans ma vie, j'en ai assez, je joue la comédie de l'importance de la culture ». Jusqu'à nouvel ordre, je n'écris plus ici. Il faut être un génie ou un saint. Le reste n'est rien. Voilà. C'est quand même extraordinaire de pouvoir lire ça, bon, en 1986. Hein. Bon, On sait quel succès il a eu par la suite, hein, ne serait-ce que avec la bataille de Toulouse. Mais on voit un homme qui est excessivement honnête. Voilà. Et un artiste avec cette honnêteté, il faut bien avouer que c'est très rare. Hein. Je suis là de ce carnet, je joue la comédie de l'importance de la culture. C'est fou d'écrire ça alors que effectivement c'est un homme qui avait une culture gigantesque. Jusqu'à nouvel ordre, je n'écris plus ici. Il faut être un génie ou un saint, le reste n'est rien. Bon, alors disons qu'il a été un génie, peut-être pas un saint, mais pas loin. Un génie, en tout cas, sur José Cabanis. Je vais lire quelques extraits, donc du début, alors les années de... Les premières années. Ce qui m'intéresse, c'est 47. Dans les derniers mois de la guerre, c'est-à-dire un peu plus de 2 ans avant ceci, marchant à pied sur les routes de l'Allemagne, envahie et bombardée, avec le bruit des avions de nuit sur la tête, portant avec moi tout ce que je possédais au monde, une valise, où il y avait pas mal de livres, à la merci de la mitraillette d'un soldat énervé, j'ai compris que je n'étais rien. Alors, voyez, on retrouve ce sentiment de son impuissance en définitive et du vide de ce que l'on est. C'est-à-dire que José Cabanis, contrairement à beaucoup d'artistes, et en particulier des poètes, hein, et je vous le dis sans aucune méchanceté, mais vraiment, la mégalomanie de certains artistes a quelque chose de pitoyable et d'insupportable. Là, c'est pas du tout son cas. J'ai compris que je n'étais rien. Cela me suivit en France, quand j'ai retrouvé ma famille, ma maison, et un certain ordre social, où j'avais ma petite place. Elle ne me fit pas illusion, mais enfin, la vie recommençait. L'expérience décisive avait eu lieu, j'avais compris où était le salut et la justification possible de mon existence. Dussé-je être mort à l'heure qui suit? Mais quand la mort n'est plus à deux pas, rien ne presse, et la vie de tous les jours n'est pas, ma foi, si détestable quand on a 25 ans. Je savais désormais, mais confusément, et vivais comme ne sachant pas, avec des retours, des appels, une nostalgie qui ne résistait pas à toutes les convoitises du monde qui sont si tentantes lorsqu'on est jeune, surtout quand l'idée me vint et m'occupa entièrement que je pourrais être capable de ce que personne d'autre ne ferait, voilà qui vous remet définitivement en selle. Vers le milieu de ce mois de novembre 1947, dans un automne semblable à celui que je connais ces jours-ci, dernier beau jour, couleur rouge et or des arbres, avant la rentrée brusque de l'hiver, une solution heureuse m'a paru, le vrai remède à tout, et après moi, le déluge. Il faut savoir que j'étais jeune avocat, aux clients rares, sans argent, sans voiture, prenant le train quand j'allais plaider à l'extérieur, selon le vocabulaire du métier, et déjeunant d'un sandwich sur un banc avant de reprendre le train pour Toulouse après l'audience. Boire un petit café était mon seul luxe et faisait passer le temps. Je ne sais quel procès me fit aller à Saint-Gaudens, au bord des Pyrénées. Il parle de Saint-Gaudens. 14 novembre, Saint-Gaudens. Déjeuner sur un banc dans le jardin municipal. Reste d'un cloître, visiblement reconstruit, mais couvert d'une glycine rouge et agréable à voir. Un bassin avec un jet d'eau dans lequel les feuilles de platane tombent inlassablement. Automne, belle journée, puis un café dans un des deux restaurants qui qui domine l'esplanade. 4 joueurs de cartes devant moi, venus après le repas. Je crois reconnaître un boucher, un fonctionnaire, un marchand de grains et un quelconque commerçant. La chair est triste, hélas. Ses plaisirs, désespérément honnêtes, ne le sont pas moins. Ce sont là des hommes mariés qui ont laissé leur femme à la vaisselle. À 2 heures, ils iront sans doute à leur travail. Voilà leur plaisir de la journée, misérable joie. Et demain, toujours, il en sera ainsi. Pourquoi sont-ils sur terre? Sur l'esplanade, panorama des Pyrénées, première colline, basse et boisée. Voilà, vous voyez à quel point ce ton est un ton totalement contemporain, hein, quand il dit « ce sont là des hommes mariés qui ont laissé leur femme à la vaisselle ». Bon, nous sommes en 1947, donc il y a un regard très aigu sur le monde, où il y a, comment dirais-je, une lucidité, d'abord sur son statut social, etc. Bon, après il aura un très beau statut social, hein, il fera des expertises. Docteur en droit, étudiant brillantissime, et docteur en droit, un juriste remarquable, qui faisait des expertises qui permettaient évidemment de gagner largement sa vie. Et puis, c'était avant tout, on le voit dans le petit extrait que je viens de lire, José Cabanis, c'est avant tout la culture et la littérature. Voilà. En tout cas, c'est très bien que l'Académie des Jeux Floraux de Toulouse, dont il était membre, hein, il était membre de l'Académie française, bien sûr, mais aussi mainteneur de l'Académie des Jeux Floraux, ici à Toulouse, il est très bien que l'on puisse rappeler que nous avons eu un grand homme de lettres, donc, pendant toute cette période. Donc, José Cabanis. Je vais faire une annonce avant d'entamer cette partie sur Michel Baglin. Alors, une annonce assez rapide. Je voudrais saluer, encore une fois, le travail de Bruno Doucet, les éditions Bruno Doucet. Bruno Doucet, lui-même poète, hein, que nous avons eu ici à ce micro, à Radio Occitanie. Bruno Doucet qui fait paraître donc 2 choses. D'abord, une anthologie des femmes afghanes. Et puis, une anthologie, Ukraine, 24 poètes pour un pays. C'est une anthologie établie par Ella Yevtushenko et lui-même Bruno Doucet. Alors, il s'agit là donc, comme le nom l'indique, de la traduction. C'est un livre bilingue. Hein. C'est un livre bilingue. Vous imaginez le travail que cela représente quand même pour l'éditeur. Et tout ce que l'on a pu faire. Hein. Il y a une explication comment cette anthologie a été fabriquée. Et voici ce que dit Bruno Doucet. En Ukraine, l'horreur progresse plus vite que l'armée russe. Je n'ose dire à Elia qu'un poète devra un jour évoquer les corps de civils découverts par centaines le 3 avril, après le départ de l'occupant, dans les fossés de Boutcha, au nord-ouest de Kiev, où la gare de Kramatorsk bombardée alors que des habitants fuient la ville. Les mots restent, tandis que les faits s'éloignent, chassés par d'autres faits dans un cortège funèbre ponctué d'oubli. Voilà. Bon, depuis, nous savons, la situation a un peu évolué. Je vais simplement me borner d'abord à vous inciter à vous procurer cette anthologie qui est un très beau livre, hein, très très beau livre, avec des illustrations de Ilona Silvaci, des collages, et c'est vraiment très beau, très très beau livre, hein, enfin toujours mené au cordeau, comme tout ce que fait Bruno Doucet, bien sûr. Je vais simplement me contenter de lire quelques extraits, un peu au hasard, parce que j'aurais envie de tout lire. Un extrait de Alina Kourk. Les poètes n'ont pas de sexe, seulement des renflements disgracieux d'homo sur le corps, comme les caractères sexuels secondaires. Vieille touffe d'impressions qui ne parviennent pas à raconter jusqu'au bout, les raser ou les laisser pour le charme. Hemingway, barbu, pourchasse sa propre mort. Lionne paresseuse, brisant soudain l'élan de sa trajectoire, elle tombe sur lui, rapide et lourde, comme une averse tropicale après une longue sécheresse. Combien de temps a-t-il dû l'attendre, assoiffé, tapi, nourrissant des moustiques du quotidien de son propre sang? Finalement, qui doit attendre qui? Dans ce code non écrit de l'existence, qui pourchasse qui? Les poètes n'ont pas de sexe. Hermaphrodite de la solitude, chaque fois avec cette quête confuse de l'autre, mais n'accouchant péniblement que d'eux-mêmes, répétez encore et encore, répétition de la répétition, repeat, please, répétition de la répétition, comment se libérer des cerceaux de la détermination corporelle, en accordant les différences en soi, en lisant les parties génitales. Tout se passera bien, Hemingway, sans aucun souci. Tous les rubicons de l'auto-identification ont été franchis. Les nœuds gordiens de l'engagement mutuel ont été tranchés. La pierre de Sisyphe, de la vie, a été lâchée du sommet. Le génie n'a pas de sexe, juste le cri d'une gorge écorchée entre les jambes. Dans cette maison, le corps encore tiède d'un poème est suspendu au clou du quotidien, accroché à vif comme un reproche, comme une preuve que j'y étais, que tu y étais, et qu'entre nous, il y avait quelque chose d'irrépressible, comme un souffle, d'incertain, comme un baiser, d'insignifiant pour toute autre personne que nous-mêmes. En toi, j'aime les possibles dont nous n'avons pas profité, la voie que nous pouvions suivre mais que nous n'avons pas empruntée, le choix d'une chose unique que nous n'avons pas fait, car nous voulions tout obtenir d'un coup, insatiable. Parfois, le poème devient maison que l'on construit au-dessus de l'abîme par besoin de réfuter la réalité. Voilà. Donc vous voyez, réfuter la réalité, le poème, il s'inscrit dans la réalité, mais il lui donne une autre dimension et une dimension de résistance, essentiellement. Voilà. À lire donc Ukraine, 24 poèmes pour un pays, aux éditions Bruno Doucet. Et comme nous approchons bientôt de Noël, si vous voulez faire vos emplettes pour les cadeaux, il y a un très beau livre que vraiment je vous invite à offrir en partage à la personne que vous aimez. Il s'agit de Mon tiers poète. Mon tiers, comme le tiers à payer. Mon tiers poète de Amaury Lalloué aux éditions Pierre Ménard. Alors, c'est un très beau livre, très beau livre. D'abord, c'est un format A4, très grand format. C'est un livre d'artiste que l'on peut acheter pour 20 euros. Et il est magnifique, absolument magnifique. Alors, c'est très surprenant, hein, les éditions Pierre Ménard, vraiment, on n'en dira jamais assez de bien à ce qu'ils font pour la poésie. Hein. Souvenez-vous qu'ils ont aussi publié Thierry Metz. Hein. Amaury Lalloué nous dit, Amaury Lalloué, vint en avril 2009 d'un souvenir de volupté, d'un réenracinement de cèpe. L'homme qui le contient avait alors 32 ans. Au fur et à mesure que les jours le travaillent, le poète écorce la bogue de son homme, révélant ainsi des chairs tournantes. Mon tiers poète replace donc ses fruits dans un tout pétiote innommé. Qui suis-je ? Bulle encore un poète, se sentant mu, nu, pièce, frottant ses consoeurs, dont les bords finement crénelés, tantôt s'emboîtent parfaitement, tantôt se heurtent en vrac, plaque, dessous, dessus, le sismographe du cœur retraçant ses joutes. Mon tiers poète occulte donc deux gros tiers de l'enveloppe. L'autobiographie soudrait deux tiers en une pâte peu ductile. L'homme enseigne d'Amaury Lallouet, passe le sombre éclair des temps à Toulouse, épluchant ses masques d'intérimaire, dessinateur et pyrénéiste, voyageur au long cours d'aventures intérieures, extérieures à minima, l'amitude colle auprès d'irréversible, blonde en l'air ou brune à terre, la poésie m'accompagne, éternelle, triptyque vierge, dit-il. Voilà. Alors, évidemment, c'est un langage assez désopilant, comme l'est d'ailleurs ce recueil, mais qui est un recueil d'abord, un très, très bel objet. Le livre lui-même est un objet, par ses illustrations, la qualité fabuleuse d'abord de l'impression. Hein. C'est un véritable livre d'artiste que vous avez dans les mains, je vous dis, pour la somme modique de 20 euros. Donc un très beau cadeau hein, qui fera beaucoup d'effet. Et c'est un livre donc, qui est composé de plusieurs formes poétiques. On va y trouver des aphorismes, des poèmes polyphoniques, des poèmes graphiques, des dentelés, des découpés, alors il y a des collages, et il y a une espèce de foisonnement de la couleur, une espèce de fluorescence dans tout ce livre qui est un ravissement vraiment, qui a quelque chose de jubilatoire à la fois de lire, d'abord parce qu'on est désarçonné un peu par cette écriture, et puis il y a une l'esthétique lors des représentations, des collages, tout ça vous entraîne dans un univers un peu qui va au-delà du ravissement. Il y a une espèce de, on a un peu de fascination par le plaisir de l'œil, le plaisir aussi de ce que l'on lit, donc le plaisir de la parole. Voilà. Alors c'est inclassable. C'est inclassable. Amaury Lallouet, c'est quelqu'un qui a essayé de peindre, de faire de la peinture avec les mots, ou qui ne sépare pas la peinture et le langage. Il y a une mise en page qui est vraiment à l'œuvre des collages. Par exemple, là, je suis en train de regarder des collages comme Claude Saguet, qui a été notre grand poète ici à Toulouse dans les années 70. 80, aurait aimé ça, lui, qui faisait aussi des collages, comme beaucoup de poètes surréalistes d'ailleurs. Ah. Que vous lire ? Comment vous lire ce livre sans que l'on regarde la page, la mise en scène des mots sur la page ? Comment lire ça ? Je vais essayer quand même. En tout cas, ce que je voudrais, c'est pouvoir vous inciter à vous procurer ce livre, en tout cas à essayer de voir dans une librairie vraiment ce qu'il en est, parce que c'est un très très beau livre. Ensablement, l'aride déchéance au goût de miel pourtant, qu'avec sec ras de langue, fut usé, ellipse parien, saille la faille, taille et coude, eau inhabitée. Cycle d'ondé, broutant timidement la ligne séparatrice. Ô guillemage, poison contre poison, scorpion utile, ô poète oiseau, piqué à vif, mineur des moelles, allos réserviste, mu dans l'antre, pré-bourrage. L'acier du bleu, barre de silence, élu en amont des burnes, lointain, devise, hontain, l'étonnement chu, nature emprise, par la aura, calé sans âge, interprète règne toute chose solidaire, damnant l'amant solidaire. Ne te marier, Maria. Voilà. Vous voyez à quel point une écriture désopilante, mais il y a une espèce de vertige de des mots, les mots qui entraînent ce vertige et qui est relayé par, évidemment, ce qui ne peut pas passer à la radio, qui est relayé, bien sûr, par les illustrations, par le graphisme, par les couleurs. Voilà. En tout cas, un très beau livre. Un très beau livre qui fera un très beau cadeau de Noël. Amoury Laloué, mon Pierre poète, aux éditions Pierre Ménard. Voilà. Maintenant, nous allons revenir à Michel Baglin. Samedi 19 novembre, il y aura ici à Seille, dans la banlieue de Toulouse, ce salon qui rendra hommage à Michel Baglin, qui est organisé par l'association Les Amis de Michel Baglin. Michel Baglin, qui tenait cette revue en ligne Texture. Je vous invite toujours à aller voir. Texture, c'est en ligne. Voilà. Et je vais simplement, non pas vous faire un panagérique de l'œuvre de Michel Baglin, nous ferons une émission, cela demande une heure entière pour faire une émission complète sur lui, mais je voudrais simplement vous lire des extraits d'une de ses dernières publications. Publication qui s'appelle « Les mots nous manquent ». Ce titre m'a toujours interpellé, surtout maintenant, parce que vraiment, s'il y a quelqu'un à moi qui me manque, c'est bien Michel Baglin. Et donc ce titre, les mots nous manquent, mais toi, Michel, combien tu nous manques? Michel, c'était le seul poète à m'appeler pour me demander comment j'allais. Pour rien, si ce n'est, sans quérir, voilà, comment tu vas? Par l'amitié, pour l'amitié et le seul. Alors j'avoue que ça m'a marqué, indépendamment de notre complicité autour de la poésie, il y avait cette extraordinaire dimension de l'homme, cette extraordinaire humanité et cette extraordinaire bienveillance. Et puis, quel talent, ce Michel. Donc je voudrais lire des extraits de « Les mots nous manquent ». C'est un très beau livre qui a été publié aux éditions Rhubarbe. Un livre qui vous coûtera 12 euros, c'est-à-dire que vraiment il est accessible. Et si vous avez l'occasion d'aller à Seille, achetez-le, ce livre. Michel Baglin, qui avait eu le prix Max-Paul Fouché, qui était romancier, nouvelliste, essayiste, critique, qui est mort l'été 2019. Et il est mort avant la publication du livre dont je vais lire les extraits, qui était le septième livre qui avait été publié de lui par les éditions Rhubarbe. Ce livre, c'est le poète Jean-Pierre Lemaire, des grands poètes français, qui en a fait la préface. Je n'ai pas le temps de la lire en entier. Si je veux laisser la parole, je vais donc lire simplement, donc en définitive, ce que l'éditeur a mis dans la quatrième de couverture. Les mots nous manquent devant l'énigmatique beauté qui nous submerge et nous dépasse. Et devant le nœud mystérieux rattachant la vie et qui nous comble à la mort qui nous dépouille. Pourtant les mots sont bien là, les mots nécessaires pour se poser, marcher, trouver de petits passages dans le réel vers les autres et vers soi-même. La poésie est ainsi tendue entre les deux Paul, qui n'auront cessé d'aimanter Michel Baglin. Constat de l'impuissance du langage en face d'une réalité trop belle ou trop atroce. Confiance malgré tout dans le langage, indispensable pour la célébrer et la dénoncer quand il faut. Michel Baglin renoue avec la poésie de la célébration, le souffle large, le verbe haut, naguère assumé par Claudel et Saint-Jean de Perse. Cependant, le sentiment qui l'anime n'est pas celui du conquérant annexant de nouvelles terres au langage. C'est plus simplement la gratitude pour ce qu'offre la vie jusque dans les détails. Merci aux mimosas citrons qui nous enneigent de lumière, nous offrent le soleil en flocons. Mais la différence majeure par rapport aux odes de Claudel et Saint-Jean de Perse, c'est que la célébration n'ignore pas la part sombre, voire ignoble, du réel, la part qui défie le chant. Mais qui nous dira comment chanter la mer qu'on asphyxie, la forêt qu'on déboise et la rivière qui pue? Et Michel Baglin reprend alors le fil d'une autre tradition, celle de la poésie engagée. Jean-Pierre Lemaire, donc ça c'est un extrait de la préface. Donc vous avez vu les deux volets. D'abord celui de la célébration, celui de l'émerveillement devant le monde, celui qui avait le regard, qui pouvait aller chercher dans ce qu'il voyait quand même l'éblouissement que nous offre le monde, que nous offre quand même ce qui nous entoure, la nature, et en même temps l'acuité de ce regard qui permet cette poésie de célébration, qui permet d'avoir ce ravissement, ce qui permet d'avoir cet enthousiasme de vivre. En même temps, ce regard aigu voit aussi ce qui cloche dans ce monde, et malheureusement on va alterner à la fois de l'éblouissement au désastre, au désespoir de ce qui nous offre, ce que nous offre, donc ce que nous voyons, ce que nous sentons, mais également aussi ce que un bon prophète qui est le poète, ce que nous devenons, qui risque d'advenir. Et là, eh bien, bien sûr, Michel Baglin est celui qui va prendre parti. Il va prendre parti. Il va dire non, il ne faut pas être ça. Je vais être prophétique. Prophétique avec le langage, prophétique avec le poème, et ainsi je vais participer à cette œuvre de résistance dans ce qui se passe, c'est-à-dire la mer qu'on asphyxie, la forêt qu'on déboise, la rivière qui pue. Voilà. Michel Baglin, un très grand poète qui honore notre ville de Toulouse. Le courant des images. Alors ceci, c'est sur des photographies d'un autre Toulousain, qui est Jean-Luc Haribaud. Jean-Luc Haribaud, qui est poète et photographe, et qui anime d'ailleurs un atelier de photographie à l'espace Saint-Cyprien, ici à Toulouse. Jean-Luc Haribaud. Le courant des images, voilà ce que le poème que lui dédie et qui a écrit pour lui Michel Baglin. Les images ne surnagent pas, elles sont au fond de l'eau, reposent sur le sable des mémoires. Le courant les floue et les fausses transparences, les forces noueuses du passé. Elles ont le groin des bêtes, les yeux écarquillés du nouveau-né, des intentions de graffiti. Elles ont les dents sauvages, des cris s'y entendent et des silences qui sont des cris. Les traces y violentent la paix pompeuse des années. Les images ne surnagent pas, elles sont là, depuis qu'on les y a oubliées au cœur de la rivière, sur le fond grenu des histoires et des légendes. Le courant les offre à qui veut les voir, qui veut les croire. Les ondes porteuses, les lumières sorcières, le patrimoine commun de nos biographies. Qui va là démembrer ? Elles ont des visages muets qui se trahissent et sont à tout le monde, des mains disjointes, des yeux au ciel, des silhouettes tremblées. Elles ont des bras tendus et du lyrisme repoussé, des seins hors d'atteinte, des nues toujours perdues. Les images ne surnagent pas, elles sont au profond et au-delà. Le courant les tord et les âges qui superposent les lignes, toutes les vies de chacun et de tous, leurs échos répercutés. Le flou n'est pas seulement l'autre nom du temps, il est encore le trop perçu. Le temps n'est plus de l'émotion qui ravale ses nostalgies. Les loups sortent des lisières et les squelettes sont en cage. Les faces s'offrent au vent, les façades aux questions, tout fait mystère en noir et blanc, en trompe-l'œil, et tout fait ruine dans le dedans, l'air de rien, le drôle d'air des grimaces qui se figent et des aveux murmurés. Les images ne surnagent pas, elles se brouillent d'encre et de mots, des langues étrangères pendent à leurs grilles et des affiches qui déchirent le vent des guerres et des exodes. Des corps superposent leurs chutes à la face des immeubles, des visions prémonitoires. Il y a des cadavres dans les placards, photos à terre et portes murées. Le hasard fait ses passes sur le trottoir des impasses. L'œil capte derrière les palissades des sortilèges tout intérieurs. Il raccole le surréel et lui demande des comptes. Qui va là, seul, mais hanté? Michel Baglin. Michel Baglin qui accordait beaucoup d'importance aux images, donc à la photographie, et qui avait travaillé sur les photographies de photographe le plus célèbre de Toulouse, qui est Jean Dieuzède. Il avait illustré, si je peux dire, avec ses mots, les photographies de Jean Dieuzède. C'est quelque chose de magnifique. Cette précision de la langue qui collait absolument aux photographies de Dieuzède. Une très, très, très belle publication aussi. Michel Baglin, au monde. Qui vient au monde ne sait pas encore ce qu'il lui doit. Il mange, respire et boit. De son pain fait sa chair. D'un recoin sa tanière. De sa cruauté sa loi. Il marche et prend ce que le hasard lui tend. Se garde de tomber dans le fond des ornières. S'invente cent manières d'assurer son pas. Il sent juste qu'il doit trouver des partenaires pour transmettre il ne sait quelle espèce de foi dans les puissances obscures de l'avenir humain. Qui dure au monde le sait, tout s'use et se paie. Il tente par la mémoire de sauver une histoire promise à l'oubli, comme il est à la terre. Il s'invente des frères pour bâtir l'utopie, des paradis futurs, des meilleurs lendemains. Et tandis qu'il vieillit, s'éveille la nostalgie d'un passé magnifié de significations perdues. Il garde l'oreille tendue en quête d'un signe qui rendrait le cours de sa vie comme sa mort légitime. Mais si le monde est là, le monde ne dit rien. Il rit, il crie, il gêne. Michel Baglin a écrit ça chez lui à Seille en septembre 2018, donc quelques mois avant sa disparition. Il est assez émouvant de voir que encore un poète à qui le temps a manqué. Il y a là quelque chose de révoltant quand on voit un artiste qui était en pleine puissance de son art
et qui va s'arrêter.
Coïncidence. Dessin à la proue de la lumière, les lignes du nu épousant l'imaginaire et ses galbes modelés par les générations, les cimes immaculées crevant nos ciels intimes. La grâce est un geste quand il témoigne de la fragilité du vivant s'élevant au-dessus de son propre néant. Voilà, pour nous laisser croire que toute beauté est naturelle et comme donnée. Pourtant, même reconnue dans la fougue d'un torrent où la mer, étirant son éternité sous la caresse du vent, elle ne l'est pas plus qu'elle n'est sur la toile, le fruit des cogitations du peintre qui sait juste comment fait danser les couleurs. La beauté n'est peut-être que le désir exaucé d'entrer dans le tableau par la grâce de sentiers devinés dans nos arrière-pays, une superposition improbable du dedans et du dehors, la coïncidence d'une attente secrète et d'une rencontre de hasard. Ainsi, nos harmoniques intérieures trouvent-ils dans le monde l'accord avec les notes qui leur correspondent? Ainsi le réel, le terrible réel, les mots soudains le font-ils chanter, tandis que la métaphore, c'est chacun, enracine le verbe dans le corps. Voilà. Ainsi s'achèvent les poètes. À lire Michel Baglin, Les mots nous manquent, et puis vous pouvez retrouver Michel Baglin sur le site lespoètes.site, les poètes tout attachés, lespoètes.site, où vous avez toutes nos émissions, et dans les années antérieures à 2022, vous cliquez et vous avez des émissions avec la voix de Michel Baglin. Michel Baglin, dont nous vous reparlerons. Claude et moi, nous vous souhaitons une excellente semaine à l'écoute de Radio Occitanie et nous vous disons à la semaine prochaine. Adieu.